France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, c'est un monument du chant et de l'opéra que je vous propose de rencontrer dans la ville de Pau où il réside. Robert Massard, que d'aucuns désignent comme le plus grand baryton de l'après-guerre, est avec nous. À 96 ans passés, il a toujours la même verve pour évoquer ses débuts en amateur. La salle Favart et le Palais Garnier, autant des troupes, les duos avec Callas, Montserrat Caballé et tant d'autres artistes qui furent ses proches et ses égaux, sans oublier les enregistrements d'opérettes pour le service lyrique de la radio. À midi, place à la danse avec les deux pigeons de messager. Mais d'abord donc, bienvenue à Robert Massard.
J'ai fait trois fois le tour du monde et les dangers font mon bonheur. J'aime le ciel quand le ciel gronde, la mer quand elle est en fureur. J'ai fait trois fois le tour du monde et les dangers font mon bonheur. J'ai fait trois fois le tour du monde. Dans mes voyages, combien d'orages, que de naufrages, mais en retour, au sein des fêtes, que de conquêtes, que d'amourettes sans amour. Italienne, circassienne, algérienne, chaque pays m'en devait une, ou blonde ou brune, et de chacune j'étais épris. Toujours de même, le croyant même, j'ai dit je t'aime à des vertus. Dont la victoire faisait ma gloire, et ma mémoire ne les voit plus. C'est qu'une peine me rend fidèle, je me rappelle toujours, hélas, la bienvenue, cette inconnue que j'ai tenue entre mes bras. Je l'ai tenue entre mes bras, oui. Ville chérie, ô ma patrie, fais, je t'en prie, parler les flots, et qu'on me rende cette normale que je demande à tes échos. Pour la connaître, la voir renaître et m'apparaître sortant des flots. Tout m'est facile, fut inutile de braver mille dangers.
Bonjour Robert Massard.
Bonjour Benoît.
Je suis très heureux de vous retrouver. Et j'ai choisi pour ces retrouvailles un air extrait des Cloches de Corneville. Non pas que vous ayez beaucoup chanté d'opérette, mais au contraire, je crois que c'est la seule opérette que vous ayez chantée sur scène.
Tout à fait. Non, les saltimbanques aussi à Strasbourg, mais il doit y avoir quelque chose comme 50 ou 60 ans. C'était voilà. En 1960.
Voilà. Et donc les cloches également, que vous avez jouées et chantées au théâtre.
Oui, ça à Lille, à Lyon, à Marseille, un peu partout en France, en tout cas, dans beaucoup de théâtres, évidemment.
Voilà, et puis je me disais, au fond, vous avez quand même fait quelques fois le tour du monde comme chanteur, mais alors comme chanteur d'opéra, puisque vous êtes avant tout un immense chanteur d'opéra, on va y revenir. Cela dit, vous avez peu chanté l'opérette en scène, mais vous l'avez beaucoup chanté à la radio.
Tout à fait.
Comment ça s'est présenté? C'était pour gagner votre vie? C'était par goût?
Pas du tout, mais j'avais un ami qui était sous-directeur de la radiodiffusion française, qui s'appelait Monsieur Canton de Batte, oui. Qui était un ami de mon père, que mon père avait perdu de vue depuis une trentaine ou quarantaine d'années, et quand il a su qu'un certain Massard était engagé à l'opéra, Et il s'est manifesté, il m'a dit, voilà, si tu veux, je connais très bien Monsieur Gressier, Maître Gressier, qui était donc le directeur du service lyrique.
Exactement.
Et à ce moment-là, Maître Gressier m'a convoqué pour une audition, et il m'a dit, je vous prends ici, j'ai beaucoup de travail à vous faire faire, voilà.
Et vous en avez chanté des quantités et des quantités. Moi, je vous ai connu, d'ailleurs, avec passionnément de messagers. Je crois que c'est la première chose que j'ai entendue de vous, voyez-vous. Et à l'opéra, vous avez chanté combien de fois sur la scène de Garnier et de Favart?
Alors, sur la scène de Garnier, j'ai dû chanter plus entre 600 et 650. Et à l'opéra comique, j'ai totalisé entre les deux théâtres 1003 représentations.
Ah ben voilà, 1003 représentations.
Comme Don Giovanni, 1000 lettrés.
Exactement. Robert Massard, beaucoup vous considèrent comme un des plus grands, sinon le plus grand baryton de votre génération.
Oh, vous me faites là trop d'honneur, cher Benoît.
Disons peut-être à égalité avec Gabriel Baquier qui nous a quittés récemment.
Ah oui, oui, tout à fait. Nous avions à peu près pas tout à fait le même répertoire. Lui était plutôt baryton basse.
Oui.
Et moi, j'étais plutôt baryton aigu.
Voilà. Vous avez dû être attristé de sa disparition,
tout
j'imagine.
Tout à fait. J'ai téléphoné à son épouse. Je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps. Je vais le rappeler maintenant parce qu'évidemment, ça fait un vide, c'est sûr.
Et oui, bien sûr. En tout cas, voilà, je suis très heureux qu'on soit ensemble pour la troisième fois, à distance, parce que vous êtes aujourd'hui à Pau et nous sommes à Paris.
Oui.
Vous habitez la ville de Pau, toujours. Hein.
Toujours, il y a 40 ans.
Est-ce que j'ose dire l'âge duquel vous vous approchez, Robert Massard?
Eh bien, c'est-à-dire j'ai commencé ma 97e.
97e année.
Oui, je suis né le 15 août 1925.
Voilà. Et vous êtes merveilleusement volubile, vif et présent.
Ça, c'est au point de vue mental, ça marche très fort. Au point de vue jambes, ça marche moins fort. Et au point de vue cœur, il s'emballe de temps en temps. Voilà.
Bon, écoutez, en tout cas, c'est très gentil d'être avec nous. Alors, on a écouté tout de suite le Massard opérette. Là, on va retrouver le grand Massard opéra avec cet air de Renato du bal masqué.
Adieu.
pour ceux qui en douteraient encore ou qui ne le sauraient pas, voilà le grand art de mon invité, Robert Massard. Quel bel enregistrement, Robert Massard, mon Dieu.
Oui, c'est-à-dire que avec le temps, il y a des choses que je ne ferais peut-être pas de la même façon. Mais c'est,
vous mais savez, la voix, l'articulation, le lyrisme, le sens musical, enfin tout y est, c'est merveilleux.
J'essayais de respecter l'écriture surtout, parce que c'est très important, ouais. Et donner au texte toute sa valeur aussi, parce que c'est aujourd'hui, j'entends souvent beaucoup de jeunes qui n'articulent pas tout à fait autant.
Ouais.
C'est très, même quand on chante en italien, on est obligé de donner du sens au verbe, aux mots, voilà.
Voilà, c'est ce tout que vous faites magnifiquement. Alors là, pour le coup, en version française, parce que vous avez chanté, il faut dire, le répertoire italien dans les deux langues. À vos débuts, c'était toujours en français presque, et ensuite, c'est passé tout en italien.
Exactement. On a commencé à chanter dans la langue originale à partir de 70-71.
C'est ça.
Dans beaucoup de, par exemple, le dernier Rigoletto que je fais avec Edda Pierre à l'opéra, c'était en italien.
Voilà, c'est ça.
Tout le reste, j'ai chanté donc en italien. Déjà, à partir de 66 ou 7, on se mettait à jouer, à chanter en italien, évidemment.
Il faut dire donc, Robert Massard, on va revenir bien sûr à votre répertoire, que donc vous êtes à Pau de nos jours, mais vous avez grandi aussi dans cette région. Vous êtes, on peut dire, quelqu'un qui est très, très physiquement lié à la montagne.
C'est-à-dire que je suis né, donc, comme je vous l'ai dit, en 15 août 25, et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 26 ans.
Voilà.
Et je suis un amoureux de la nature, évidemment.
Et un peu suisse aussi par votre père, je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mon arrière-grand-père était né à Rossinières, voilà. Tout près de Neuchâtel, et puis mon grand-père est né en France, mon père est né à Pau.
J'ai même lu dans une interview ancienne que vous aviez, à un moment donné de votre carrière, vous aviez dû choisir de renoncer au ski, parce que les efforts physiques, ce n'était pas très compatible avec le métier de chanteur lyrique.
Pas compatible au point de vue du chanteur lyrique, mais en plus de ça, une fracture si vous êtes sur le flanc pendant 2 mois ou 3.
Voilà. Ah oui, en plus, et ça bloque la carrière.
D'ailleurs, il m'est arrivé non pas par le ski, mais pas en voiture, en rentrant de Lille, il y a quelqu'un qui a pris l'autoroute en sens interdit, comme il y avait un brouillard à couper au couteau, j'étais son premier client.
Ce qui est assez frappant chez vous, Robert Massard, c'est que vous avez vraiment appris le chant, l'art du chant sur le tas, par goût, parce qu'il y avait, je crois d'ailleurs, un voisin, un ami de votre père, qui s'appelait Léon Marcel, qui était chanteur d'opéra.
C'est ça, d'opérette.
D'opérette.
C'était un Suisse, d'ailleurs.
Oui.
Donc je me suis engagé en 43, j'ai fait 2 ans de service militaire.
Pendant la guerre, vous étiez déjà soldat à la fin de la guerre.
Oui, je m'étais engagé durée de la guerre, heureusement, parce que si j'avais pris un engagement de 3 ans, il aurait fallu que je les fasse. Je ne voulais pas être militaire, surtout. Ouais. Et puis donc, au retour, j'avais une voix depuis l'âge de 16 ans. Les gens me disaient, vous savez, il faut apprendre le solfège. Je suis tombé sur un professeur de piano qui m'a dit d'acheter la méthode Rose, c'est-à-dire elle voulait que j'apprenne les 7 clés. Alors à ce moment-là, j'ai dit non, je reprends mes clés à molette.
Donc vous appreniez d'oreille, hein?
J'ai appris d'oreille. D'ailleurs, ça je peux vous assurer, mon cher Benoît, que c'est vrai, je n'ai jamais pris une leçon de chant.
Voilà. Jamais pris.
Mon père avait une voix naturelle, il chantait a cappella. Et d'ailleurs, quand il a été question, quand j'ai auditionné l'opéra et que j'ai obtenu un contrat par Monsieur Hirsch, c'est lui qui m'a poussé parce que je me disais, aller à Paris, ne rien connaître, pas l'opéra, pas la ville. Pendant la guerre, le plus loin où je suis allé, c'était Bordeaux.
Hein. Et oui, voilà. Et puis vous avez aussi, peu après la guerre et avant de monter à Paris, participer par contre à des concours, hein, le concours de Pau, le concours de Bayonne, que vous avez emporté brillamment.
Quelle mémoire, mon cher Benoît. À ce concours de Pau, il y avait un ami de mon père qui était président du syndicat des hôteliers de la région du Sud-Ouest. Il avait organisé un banquet et il a dit à mon père, écoute Henri, dis à Robert s'il ne veut pas venir chanter 3 ou 4 heures d'opéra parce que moi je ne veux pas de yé-yé. Et à ce moment-là, Monsieur Blanchardet, que je connaissais en tant que, il avait un magasin de pièces détachées pour voitures.
Oui, parce que vous étiez mécanicien, hein.
J'étais mécanicien pendant 10 ans.
Voilà. C'est quand même formidable.
Et alors, quand il m'a entendu, il me dit, mais jeune homme, je vous connaissais en tant que mécanicien, mais vous avez une voix d'opéra, alors je me suis mis à rire, parce qu'il était quand même 2 heures du matin. Il me dit, ne riez pas. Vous ne savez peut-être pas ce que j'ai fait avant d'avoir le magasin de pièces détachées. J'étais chef d'orchestre. Je connais très bien, je tutoie Monsieur Hirsch.
Le directeur de l'Opéra de Paris.
L'administrateur, oui. Et à ce moment-là, donc, il a obtenu une audition le 8 juin 1951. Je suis parti, je suis revenu avec un contrat. D'ailleurs, monsieur Hirsch m'a dit, mais vous êtes musicien? Non, monsieur. Mais vous n'avez jamais chanté sur scène? Pratiquement pas, non, monsieur. Est-ce que vous aimez ça? Oh oui, monsieur. Et c'est pour cela, il me dit, vous savez, ça vaut la peine, croyez-moi.
Et alors, donc, on va revenir à vos débuts à l'Opéra de Paris, mais je voudrais qu'on écoute tout de suite un artiste, un de vos aînés, qui vous a encouragé à vos débuts. Et vous nous en direz peut-être quelques mots juste après, puisqu'il s'agit de Charles Cambon. Je crois que vous l'avez rencontré quand vous êtes
tout
arrivé à Paris.
Oh oui.
Et ben, on va entendre cette voix de cet artiste un peu oublié, Charles Cambon, tout de suite dans Roméo et Juliette de Charles Gounod.
Qui reste à sa place et ne danse pas, de quelque disgrâce fait l'aveu tout bas. Qui reste à sa place et ne danse pas, de quelque disgrâce fait l'aveu tout bas. Au regret extrême, quand j'étais moins vieux, je guidais moi-même aux ébats joyeux. Les douces paroles ne me coûtaient rien que d'aveux frivoles dont je me souviens. Aux folles années qu'emporte le temps, aux fleurs du printemps à jamais fanées. Allons, jeunes gens, allons, belles dames, aux plus diligents, ces yeux pleins de flammes, ses yeux pleins de flammes. Largue, largue, les censeurs qui gronde sans cesse. Fait-il la jeunesse,
C'était donc Charles Cambon dans Roméo et Juliette. Charles Cambon, quand vous avez débarqué de Pau à Paris, il vous a gentiment encouragé, je crois.
Oui, et surtout, c'était voilà, j'ai entendu cela avec tellement d'émotion parce que je l'ai très bien connu.
Oui.
C'est un homme qui était d'une gentillesse. Il m'a dit, tu vois, petit, quand je suis arrivé en 51, il était là depuis déjà au moins 25 ans, ou 30 ans. Hein,
ouais.
Parce qu'il est arrivé très jeune. Et donc, il m'a dit, tu vois, bientôt, je vais me retirer, mais je suis content parce que tout ce que je te dis, tu le mets à profit. Mais j'ai dit, monsieur Cambon, qui ne le ferait pas? Parce que vraiment, vous avez une expérience dont vous faites profiter, c'est tout.
Et oui, voilà, oui, mais c'était bien d'être accueilli comme ça parce que il n'y avait pas que de la gentillesse dans la troupe.
Ouh là là, il y avait beaucoup de jalousie, même des cabales aussi. Je passerai ça sous silence, mais enfin bon.
Alors, ce qui s'est passé, en tout cas, c'est que donc vous nous l'avez expliqué, Georges Hirsch, administrateur de l'Opéra, vous a engagé avec beaucoup de conviction. Mais
oui.
À l'époque, il faut le rappeler aux auditeurs qui ne le savent pas forcément, l'Opéra, selon la couleur politique du gouvernement, passer de Georges Hirsch à Maurice Lehmann et inversement de Maurice Lehmann à Georges Hirsch. C'est à peu près
tout
ça. Hein,
voilà. Il y a eu quand même entre les deux, qui n'est pas assez longtemps, je l'ai d'ailleurs sous les yeux, Jacques Ibert.
Ah aussi, le grand Jacques Ibert, bien sûr.
Il n'est pas resté longtemps, il est resté je crois un an. D'ailleurs, il est mort vite après.
Voilà, mais alors Lehmann, contrairement à Hirsch, il vous a pas du tout soutenu à vos débuts. Hein.
Oulala, Lehmann, d'abord je suis arrivé un 1er septembre 1951, je me suis adressé en 1er octobre 1951, je me suis adressé à la régie du chant et on m'a dit, monsieur, nous avons des directives, monsieur Lehmann vous dit de revenir au mois de janvier. Ah oui. Je me suis dit, tiens, tu ne sais rien, ça commence bien. Donc j'allais quand même à l'opéra, chanter a cappella, et puis il y a eu quelqu'un qui m'a aidé énormément aussi, qui s'appelait Camille Rucchetti, qui était un très très beau ténor, mais il a eu des problèmes de cœur, et il a fallu qu'il s'en tienne uniquement des seconds rôles. Et il m'a dit, mais c'est toi le jeune, là? Oui, 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 monsieur, oui. Mais tu sais le solfège? Ah, pas du tout. Parce que le bruit court que tu ne sais rien. Mais non, je ne sais rien, monsieur. Mais tu sais que tu n'as pas droit au conservatoire de musique, parce que tu es élève artiste. Tu n'as pas droit au conservatoire d'arrondissement, parce que tu es élève artiste. Tu n'as pas droit à tout un tas de conservatoires dans Paris, parce que tu es élève artiste. Mais il y a une chance pour toi. Je connais très très bien le directeur de la Scola Cantorum.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Madeleine Millot, qui était professeure d'une gosse de 10 ans. Donc je me suis présenté, les enfants disaient, mais tu regardes, il est en pantalon long, il s'est trompé de place.
Et donc Madeleine Millot, vous avez mis à profit au fond cette inactivité pour vous perfectionner en solfège, mais Lehmann ne voulait pas vous programmer, et c'est en fait le premier qui vous a vraiment programmé dans cette période, ça a été Gabriel Dussurgé.
Tout à fait.
Pour Aix-en-Provence. Oui. Il est tombé sur vous aussi et il vous a engagé pour chanter, je crois, Iphigénie en tauride.
C'est ça, ça s'est passé très rapidement parce que, étant invité chez une amie de ma sœur, que je ne connaissais pas son frère d'ailleurs, et à ce moment-là, il me dit, si tu veux, je te donne une adresse, tu te feras. Moi, quand on m'a parlé de Gabriel Dussurgé, je ne savais pas qu'il était directeur de... Je ne savais rien, rien. Et alors là, j'ai téléphoné à Gabriel qui m'a dit, monsieur, venez, jeune homme, venez me chanter J'ai chanté l'air du troisième acte de Rigoletto, puisque c'était mon air fétiche.
Ouais.
Et à ce moment-là, il me dit, bon, il y a eu un blanc qui a duré facilement une trentaine de secondes. Il me dit, vous me mettez dans l'embarras, parce que il me semble que vous avez quelque chose à dire. Mais travaillez ces deux airs de Thoas pour Aix-en-Provence et revenez. Et c'est à ce moment-là, quand je lui ai chanté les deux airs, il m'a dit, écoutez, tant pis si je me trompe, j'ai du flair.
Et voilà.
Je pense que vous avez quelque chose à dire.
Et voilà donc comment Gabriel Dussurgé, ce grand découvreur, lui, a voulu tout de suite vous faire chanter donc au Festival d'Aix. Je crois, encore un petit détail, que cette Iphigénie à Aix, c'était avec le encore jeune Carlo Maria Giulini.
Tout à fait, oui.
Vous vous rappelez la rencontre avec lui?
Oh, tout à fait, parce que donc quand Gabriel m'a engagé, il m'a dit, il faut qu'on prenne un rendez-vous pour que vous fassiez faire connaissance avec le grand chef d'orchestre. Et alors j'arrive dans la cour de l'archevêché, Carlo Maria Giulini, je vous présente le jeune Massard, il ne sait rien. Et lui de dire tout de suite, même s'il rate 3 ou 4 mesures, Gabriel, je le rattraperai. C'est assez formidable.
À quel horreur m'aviez-vous réservé d'un aveugle destin, déplorable victime, partout errant et partout réprouvé, mon sort est accompli, déterminé pour le crime. Les dieux me réservaient pour un forfait nouveau. Je n'avais qu'un ami, je deviens son bourreau. Dieu qui me poursuivait, Dieu auteur de mes crimes, de l'enfer sous mes pas entouré. Les abîmes, ces supplices pour moi seront encore trop doux. Ces supplices pour moi seront encore trop doux. Seront encore trop doux. J'ai trahi l'amitié, j'ai trahi la nature. Des plus noirs attentats, j'ai comblé la mesure. Dieu, frappez le coupable et justifiez-vous. Dieu, frappez le coupable et justifiez-vous. Et justifiez-vous. J'ai trahi l'amitié, j'ai trahi la nature. Des plus noirs attentats, j'ai comblé la mesure. Des plus noirs attentats, j'ai comblé la mesure. Dieu qui me poursuivait, Dieu, auteur de mes crimes, de l'enfer sous mes pas entourés les abîmes. Ces supplices pour moi seront encore trop doux. Ces supplices pour moi seront encore trop doux. Seront encore trop doux.
Et là, ça n'était pas Carlo Maria Giulini, mais c'était Jésus Etcheverry qui dirigeait cet enregistrement d'Iphigénie en tauride avec mon invité Robert Massard. C'est un répertoire que vous avez continué à aimer, Robert Massard, Gluck.
Oui, parce que je l'ai chanté en Italie, je l'ai chanté à Paris, je l'ai chanté à Marseille, à Lyon... À Buenos Aires,
partout.
Et à Covent Garden, j'ai fait 3 séries, par quelques 2 ans d'intervalle chaque série. Voilà.
Et puis vous avez connu la magie d'Aix-en-Provence, qui était encore à ses débuts, qui était encore un petit festival, si on peut dire.
Oui. C'est-à-dire que ce que j'ai chanté à Aix, cher Benoît, c'était le rôle de Thoas.
Oui.
Donc c'est un genre de c'était beaucoup plus court, ça ressemblait un petit peu au Dagon de l'opéra dans Samson et Dalila, quoi.
Alors Etcheverry qu'on vient d'entendre, j'ai remarqué moi parmi mes invités, la regrettée Christiane Hédapierre, Gabriel Baquier et d'autres, tout le monde adorait Jésus Etcheverry.
Oh là, quel homme adorable, adorable. On est allé souvent à Londres pour des concerts promenades. Il me dit, tu sais, Robert, si ça t'ennuie pas, comme je n'ai pas beaucoup d'argent, on va prendre une chambre à deux lits. et puis, passant ça, je m'ennuierai. J'adorais Jésus. Je l'ai su trop tard. J'ai appris son décès. Je crois qu'il est décédé en Corse.
Mais il avait une connaissance de l'opéra français, notamment extraordinaire.
Oh là, c'était un grand chef. D'ailleurs, il a formé beaucoup de jeunes. Et ça a été... Je pense un des chefs les plus... il connaissait tous les répertoires.
Et il était à l'écoute des chanteurs, j'imagine,
oh
aussi.
Oh là, ouais. Il respirait avec les chanteurs, d'une gentillesse. Vraiment, c'était formidable. J'ai fait avec lui, par exemple, l'heure espagnole à Barcelone, avec un ouvrage de Bucer, le carrosse du Saint-Sacrement. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. Beaucoup.
Alors, vous nous disiez donc que Lehmann ne vous aimait pas, mais comme Dussurget vous a programmé tout de suite à Aix-en-Provence, du coup, Lehmann s'est dit, il faut quand même que je le fasse chanter à l'opéra où il a été engagé, avant Aix-en-Provence. Et c'est comme ça que vous avez débuté à l'opéra juste avant dans Samson et Dalila.
Exactement. Je peux vous dire que la date, je la retiendrai jusqu'à ma mort. C'était le 18 juin, après l'appel du général de Gaulle.
Ah oui, effectivement. Et vous chantiez le grand prêtre. Hein,
c'est ça, le grand prêtre de Samson.
Voilà.
Et que j'ai d'ailleurs, à ce moment-là, c'était José Luciani qui était Samson. Il avait l'âge du grand prêtre et moi j'avais l'âge de Samson.
Voyez. Ah oui, il chantait encore Luciani, mon Dieu.
Ah oui. Vous savez, en 52, Luciani était... T'es né, je crois, en 1902 ou 3.
Eh oui.
S'il avait 50 ans, c'est tout. Voilà.
Et il était bien?
Oh, c'était un grand ténor, oui.
Ouais,
il y en a même qui ont voulu travailler. Mario Del Monaco est allé travailler avec Luciani. C'était vraiment quelqu'un, au point de vue de voix, c'était superbe. Et puis un acteur. C'est...
Évidemment, il est impossible d'évoquer tous les rôles que vous avez chantés à Garnier et à Favart pendant toutes ces années de troupe. Vous nous avez dit tout à l'heure 1003 représentations. Mais les grands rôles que vous avez le plus chantés, je crois, c'est le Figaro du Barbier, 149 fois.
T'as tout à fait raison.
C'est ça. Et Carmen, donc Escamillo et Faust Valentin.
Voilà. Et entre les trois, j'ai fait presque la moitié de ma carrière. Ça monte à 700 et quelques.
Avec simplement ces trois rôles-là.
Avec ces trois-là, oui, parfaitement. Vous savez, le barbier, on parlait de Jésus tout de suite, là, mais j'en ai bien fait à une centaine avec lui, si c'est pas plus. Dans l'opéra comique, il dirigeait ça d'une façon magistrale.
Alors, on va vous retrouver maintenant dans un autre ouvrage du répertoire français, même si le compositeur est italien, c'est Le Contori de Rossini, l'air de Rimbaud. Et vous êtes d'ailleurs là encore très grand chef sous la baguette de Désiré Émile Engelbrecht.
Décise certains goûts d'entreprise que l'exemple autorise, qui aime éveiller aussi. C'est le seul moyen d'être digne d'un pareil maître, et je veux reconnaître ce manoir en détail. Je pars, je m'oriente, à mes yeux se présente une chambre élégante, c'est celle du travail.
Et quel est ce travail?
Une harpe jolie de la tapisserie, près d'une broderie, j'aperçois un roman. Même en une chambrette, j'ai dans une cachette, plus fort l'historiette du beau tyran le blanc. Je sors de l'oratoire et j'entends mes victoires, où rien ne me fait croire à l'espoir d'un destin, marchant à l'aventure sous une voûte obscure, où j'entrevois le verdir d'un affreux souterrain. Une beauté naïve, petit gibier captif, je m'élance et j'arrive dans un vaste cellier, dont l'étendue immense et la bonne apparence attestaient la prudence du sieur de Formoutier. Arsenal redoutable qui fait qu'on pise à table, un courage indomptable contre le sarrasin. Armée immense et belle d'une espèce nouvelle, plus à graindre que celle du sultan Saladin.
C'est charmant, c'est bien.
Près des vins de Touraine, je vois ceux d'Aquitaine, et ma vue incertaine s'égarant les contents. Là je vois l'Allemagne, ici brille l'Espagne, la frémie, le champagne du jouc impatient.
C'est bien.
J'hésite au trouble extrême, au doux péril que j'aime, et seul avec moi-même contre tant d'ennemis. Au hasard, je m'élance, sans compter, je commence, j'attaque avec vaillance à la fois vers pays. Sans compter, je commence, j'attaque avec vaillance à la fois vers pays, à la fois vers pays, à la fois vers pays. Quelle conquête! Pour moi s'apprête, mais je m'arrête, j'entends du bruit. Quelqu'un s'avance, vers moi s'élance, de notre course, les murs frémissent, ils retentissent, on nous poursuit, on crie, arrête, 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 les mots répètent.
Moi, il me suffit de quelques minutes de Rossini pour me mettre de bonne humeur. Je ne sais pas comment c'est pour vous.
C'est tellement gai, ça. C'est un rôle brillant. C'est un meneur de jeu. C'est tout ce qu'on voudra, quoi.
Voilà. Et alors, vous vous rappelez, parce que c'est quand même le disciple de Debussy, le fondateur de l'Orchestre National, Désiré Émile Engelbrecht. Vous avez un souvenir de lui précis?
Oui, c'était un très bon chef. Puis, ouais. Mais il était déjà âgé quand je l'ai connu. Il menait l'orchestre bon train, hein. C'était quelqu'un qui est très, très respectueux de l'écriture d'une part, mais aussi il n'admettait pas qu'on puisse faire n'importe quoi.
Hein. Ah oui, c'est ça, c'était sous contrôle.
Oui.
Vous avez d'ailleurs enregistré avec lui aussi des œuvres, j'ai vu ça dans nos archives, comme la Pénélope de Forêt, par exemple, qu'on donne évidemment rarement.
Tout à fait, oui.
Et puis alors, parmi les œuvres plus difficiles, donc, qui sont entrées au répertoire avec votre concours, si on peut dire, il y a eu Les Troyens de Berlioz également.
Les Troyens, j'avais un bon rôle pas très long dans La prise de Troie.
Voilà.
Il y avait un très bel air à chanter. Je n'en avais pas à faire dans Les Troyens, proprement dit. C'était sur la prise de Troie. Voilà.
Il faut dire aussi que les œuvres contemporaines y sont présentes, et notamment le Christophe Colomb de Darius Milhaud.
Tout à fait.
Dont vous aviez connu la femme comme professeur de solfège.
Quand elle a vu que j'étais travailleur comme ça, acharné, elle me dit, je ne vous promets rien, mais continuez, et puis je vous promets une petite surprise.
Ah, voilà.
Et elle avait parlé de moi à son mari, Darius, qui lui a dit, bah, écoute, puisque tu me dis qu'on va lui confier deux airs de Christophe Colomb, et puis on verra. Parce que le Christophe Colomb a été, pour la première fois, c'était à Berlin, et puis après, ça a été en Belgique, mais il n'avait pas été en France. Bon. Alors, j'ai été le premier à être contacté pour ce rôle, et ça m'a, c'est pas facile d'ailleurs.
C'est une musique difficile, bien sûr.
C'est une musique difficile, oui, mais enfin. Voilà, ça a été un peu le remerciement de Madeleine Milhaud, qui, justement, après m'avoir donné le goût du solfège, parce que c'est vrai que quand j'ai été professeur à Bordeaux, on me disait, oh, c'est fastidieux le solfège. J'ai dit, écoutez, vous avez 20 ans, vous connaissez vos notes. Moi, j'ai attendu 26 ans pour commencer. Alors, ne me dites pas que c'est fastidieux.
Faut dire, entre-temps, votre voix avait un peu changé de couleur, parce que vous étiez presque ténor à vos débuts, et là, quand on vous entend, vous êtes carrément baryton.
Oui, mais ça, c'est justement, c'est Monsieur Hirsch qui disait que j'étais ténor wagnérien, mais bon.
Ah,
et
oui.
Sa femme, Madeleine Mathieu, qui donnait des cours de chant et qui avait fait une grande carrière comme Carmel et autre chose, lui dit, mais non, tu te trompes, il est tout jeune, attends, parce que ça va mûrir, il faut t'attendre. Un jour, Beckmans m'a dit, tiens, je vais te faire travailler Traviata. Et il dit ça à Hirsch, mais Hirsch, j'ai dit, mais tu es fou, José, tu es fou. Mais pourquoi? Tu vas voir. Il avait un petit tic. Il faisait, ah! Tu vas voir. Mais je te garantis que tu seras surpris. Ah! Et l'année d'après, il m'a fait chanter Rigoletto. Et alors, Hirsch lui a dit, je ne comprends plus rien. Voilà, c'était très amusant, d'ailleurs, tout ça.
Alors, vous êtes devenu donc un si grand baryton, si célèbre, si admiré, que c'est vous qui avez été choisi pour chanter aussi Escamillo, donc dans l'enregistrement fameux avec Maria Callas. Vous vous rappelez l'enregistrement et cette rencontre musicale avec Callas?
Oui, ça s'est passé, c'était au studio Wagram. Enfin, c'était dans une salle Wagram. Et je me souviens parce que, à l'époque, c'était en 65. Et il y avait eu, je crois, pas mal d'histoires. Il y avait Thébaldi et elle, tantôt quand elle chantait, c'était les pros Thébaldi qui la sifflaient, quand c'était Thébaldi qui chantait, c'était les pros Callas qui sifflaient. Donc c'était déjà, c'est une grande artiste, parce qu'elle disait à la prêtre, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu me dis, je suis prête à recommencer, voilà.
Ah oui, voilà, quel...
Ça a été, oui. Cher Benoît, quand j'entends la Norma,
oui,
avec elle, c'est pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est la perfection, oui.
Il y a quelque chose, je ne vous cache pas qu'à la fin, je sens mon mouchoir, ça me chavire, voilà.
Et voilà. Et alors, on va vous retrouver tout de suite, Robert Massard, dans deux petits extraits de cette Carmen où vous êtes à côté et en duo avec Maria Callas.
La belle amour, comment t'appelle-t-on? Dans mon premier danger, je veux dire ton nom.
Carmen, Carmen, Sita, souviens toi-même.
Si l'on te disait que l'on t'aime,
je répondrai qu'il ne faut pas m'aimer.
Cette réponse n'est pas tendre, je me contenterai d'espérer et d'attendre.
Il est permis d'attendre, il est doux d'espérer.
puisque tu ne viens pas, Carmen, je reviendrai.
Et vous aurez grand tort.
Pas, je me risquerai.
Robert Massard, s'entendre dire je t'aime par Maria Callas, ça devait faire un drôle d'effet quand même.
Oui, ça fait un drôle d'effet. Remarquez, c'était au disque, parce que je ne l'ai jamais fait. Elle ne l'a jamais chanté sur scène. Hein.
C'est vrai. Mais quand même, quel enregistrement magnifique dirigé, on le rappelle, par Georges Prêtre. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a une Carmen qui était très bien, c'était Jeanne Rhode aussi.
Bien sûr.
Elle était très féminine, très, parce que aujourd'hui on joue Carmen un petit peu trop, elles sont trop libres, je l'ai vu certaines fois, je ne citerai pas de nom, mais enfin, c'est pas une prostituée Carmen, c'est quelqu'un de, c'est vrai qu'elle est très, très aguicheuse en tout cas.
Vous avez chanté, donc, par contre, beaucoup en scène, cette Carmen dirigée par Roberto Benzi avec Jeanne Rhode,
oui. Oui, voilà. Tout à fait, oui. On l'a fait au Japon.
Ouais,
on a amené toute la production au Japon. Ça s'est passé en 61. Voilà.
Alors, chanter des duos d'amour avec des cantatrices merveilleuses, ça éveille pas parfois des sentiments presque amoureux?
Ah, il faut donner l'impression qu'on est amoureux, mais des fois, vous savez, on se supporte mal, mais on fait semblant que ça va très bien.
Oui, aussi, oui.
C'est pas toujours facile.
Alors, tout ça pour évoquer quelques-unes de ces femmes avec lesquelles vous avez chanté l'amour. Il y a eu Montserrat Caballé, par exemple.
Oui.
Mireille Affreni, Christa Ludwig, John Sutherland sont été presque des amis, celles-ci.
Oui, pour ce qui est de ces grandes cantatrices, certainement. Il y avait aussi, voyons, Marie-Line Horn, Troyanos, Teresa Berganza, Christiane Dapierre, Margaret Price, enfin, il y en a eu beaucoup, quoi.
Montserrat Caballé était très drôle, je crois.
Oui, il était très drôle, oui. On a fait Traviata à Barcelone, au Liceo, voilà.
Ah voilà. Et tout ça d'ailleurs pour redire aussi que vous avez fait, bien sûr, aussi de nombreuses tournées. Hein. Et je crois qu'une de celles qui vous a le plus marqué, c'était la tournée en URSS, qui était alors un pays encore très fermé. Vous êtes allé chanter Le Barbier, Faust et Rigoletto avec
tout
l'Opéra de Paris.
Oui, C'est-à-dire, là, j'y suis allé en tant que solo, parce que...
C'était en quelle année?
C'était en 63, je me souviens, il y a eu des choses importantes. 63, il y a eu Hérodiade au Carnegie Hall, vraiment Chicago aussi en 64, enfin. Mais je suis parti pendant 3 semaines, j'ai commencé par Kiev, avec le Barbier Fosse, ensuite ça s'appelait à l'époque, ça ne s'appelait pas
Saint-Pétersbourg, mais Leningrad.
C'est ça, ça s'appelait Leningrad. Et puis, bon, Rigoletto au Bolchoï.
Voilà, et vous avez été frappé par ce voyage, hein, c'était...
Frappé parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, ils étaient heureux, non pas de voir en français, mais de... Si, ils étaient heureux de voir en français, pas tellement. Et ils nous posaient des questions, mais vous avez la sécurité sociale, est-ce que vous avez des retraites, et tout ça. On a été, d'ailleurs, j'ai été invité dans une université, et il y avait des jeunes qui me posaient, alors, camarade, vous avez ça? Oui, monsieur. Ah non, pas de monsieur ici, camarade. Alors, au moment donné, l'interprète m'a dit, Robert, on s'en va parce que ça va tourner au vinaigre. Oui, mais le voir les gens, ces gens, les artistes des chœurs qui venaient me voir dans la loge, le baryton le plus ancien du Bolchoï, c'était très, très, très touchant, voilà.
Très touchant. Alors, on va vous retrouver tout de suite, Robert Massard. Là, on a évoqué quelques-unes de vos partenaires. Là, j'ai choisi ce duo merveilleux de Rigoletto avec une autre grande artiste qui nous a quittés il y a très peu de temps. Renée Doria, elle était presque centenaire. Hein, vous l'avez
bien... Elle était de 21, je crois, non?
De 21. Vous l'avez bien connue, Renée Doria?
Oh oui, on a fait d'ailleurs à Strasbourg le Contori avec elle.
Voilà. Et là,
j'ai fait pas mal d'enregistrements. J'ai fait le Barbier aussi avec elle, oui.
Et son mari Guy Dumazer, qui était un grand monsieur du disque, a donc enregistré.
Oh oui, ça, alors là, c'était... il connaissait tout ce qui était bon en musique, au point de vue opéra, en tout cas. Verse tes pleurs.
Quel admirable duo, là encore. Enfin, moi, c'est mon point de vue, Robert Massard.
Ah, non, mais c'est très... Elle avait une très jolie voix, puis elle était une belle artiste, voilà.
C'est... Ah voilà, et vous vous complétez merveilleusement, là. Hein, ça,
oui, c'est vrai.
Très beau.
Il y a l'autre duo qui est... le duo de la vengeance aussi, qui est... C'est un duo qui porte.
Voilà. Oui. Alors, Robert Massard, et bien évidemment, c'est la troisième fois que nous sommes ensemble et j'espère qu'il y en aura d'autres. On peut pas évoquer tous les aspects de votre carrière. On en a déjà évoqué dans les précédentes émissions. Mais dites-moi juste en un mot, comment est-ce que vous avez quitté cette grande maison qui était l'Opéra de Paris et amorcé un autre moment de votre vie?
C'est-à-dire que je m'apercevais au fur et à mesure que le temps passait, c'est-à-dire vers les années 75, on voyait des choses qui étaient anormales. Par exemple, à Carpentras, où il y avait un festival pour Mireille, on faisait traverser un cercueil dans le fond de la scène, puis dans le cas où on aurait été pris à regarder le programme, on le faisait repasser de l'autre côté. Tout ça, pour moi, c'était...
Les metteurs en scène, la prise de pouvoir des metteurs en scène.
Ah oui, c'est vrai.
Ça vous a pas tellement plu, hein.
C'est-à-dire que je me suis dit, voyons, la carrière, j'avais fait quand même plus de 30 ans de carrière. Si je reste encore 4 ou 5 ans, si je me fais détester par les directeurs et les metteurs en scène, ça agira peut-être sur mon moral, c'est sûr. Donc je préférais partir. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le fond m'a dit « Tu t'en vas quand j'arrive ?» J'ai dit « Écoute, ça fait quand même 27 ans que je suis ici.
Oui. »
Hein, en 78, j'ai fait mon dernier Samson. J'ai commencé par Samson et j'ai fini par Samson. Mais je dois vous dire, cher Benoît, que quand j'ai refermé la porte de ma loge, j'ai eu besoin d'un mouchoir. Hein.
Eh ben, évidemment.
Parce qu'on passe pas 27 ans dans une maison. Ouais. C'était ma maison. C'était, pour moi, c'est un peu spécial. J'ai réalisé une passion et si c'était à refaire, je referais la même chose, voilà.
Vous n'étiez d'ailleurs pas très très favorable à la réforme de Liberman. Vous l'avez dit ces dernières années encore avec vos amis Sénéchal et Baquier, vous étiez pour la troupe et vous pensez que ça a été une grande erreur de supprimer cette troupe. Hein.
C'est-à-dire que les jeunes maintenant ne sont plus ce que j'ai pu être aidé par exemple par Charles Cambon. Il me disait petit, ne touche jamais à ça, ne touche jamais et à ça, c'est pas pour toi. Ils vont mieux garder tous les rôles aigus et c'était vrai. Il me dit, ne change jamais Scarpia. D'ailleurs, j'étais pas Scarpia, moi. Ouais. Scarpia, il faut vraiment un comédien. Il faut quelqu'un qui a une voix plutôt baryton basse. C'est pas un ténor, enfin, un baryton avec de l'aigu.
J'ai trouvé, Robert Massard, une petite archive qui va peut-être vous plaire ou en tout cas vous intéresser. C'est la plus ancienne émission où vous êtes interviewé dans les archives de la radio. Ça date de 1955. On a retrouvé cette émission où vous êtes avec Henri Cliquet-Pleyel au piano et notamment vous chantez une petite mélodie de forêt.
Ne m'abandonnez pas, donnez-moi la douceur nécessaire pour apaiser les maux, soulager la douleur, la misère. Révélez-vous à j'espère. Pour vous je veux souffrir et mourir sur la croix au calvaire.
Thank you. Ça vous évoque quelque chose, Robert Massard ?
Oh, merci Benoît, je ne l'avais jamais entendu, vous voyez.
Ah ben voilà, la mélodie avec piano, c'est quand même un genre important, même si vous n'êtes pas au départ, effectivement, formé au conservatoire, avec le solfège, etc. Vous avez aimé chanter quand même des mélodies.
Des mélodies, mais je n'ai jamais chanté en public.
Ouais.
J'en ai fait travailler beaucoup pendant les 8 ans où j'étais à Bordeaux.
Professeur, après l'Opéra de Paris, oui.
Oui, oui, mais enfin, là aussi, je suis parti un peu déçu, parce que les jeunes... maintenant, ils me prennent pour quelqu'un de sénile, par exemple. Vous savez, il faut pas... C'est vrai. On vient me voir, puis on me dit... Oh, vous savez, vous me demandez trop. Alors, si je vous demande trop, ne venez pas me voir. Faites ce que vous avez envie de faire, mais ce n'est pas ce qui est écrit.
Voilà. Voilà. En tout cas, voilà, j'étais content de retrouver cette émission de 1955.
Oh là là.
Et on va se quitter aujourd'hui, Robert Massard, avec un autre enregistrement de la radio. Vous l'avez dit au tout début, vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opérettes avec la troupe lyrique. Là, d'ailleurs, je crois que vous êtes avec Jean Giraudeau et Denise Duval. J'imagine que c'était des joyeux compagnons. Dans ces enregistrements.
Oui, tout à fait, oui, oui.
Et les autres, et Médonia, et Lina Dachary, vous vous rappelez toutes ces figures?
Tout ça, oui, mais mon Dieu, oui. Parce que j'ai toutes les distributions sur le parcours du combattant, depuis A jusqu'à Z, de tout ce que j'ai fait à la radio. Il y avait Duval, il y avait Di Giraudeau, il y en avait tellement.
Voilà, et alors on va vous retrouver pour se quitter joyeusement dans Geneviève de Brabant d'Offenbach, petits extraits de cette opérette. Et vraiment, c'était une joie de vous retrouver ce matin, Robert Massard.
Merci infiniment, mon cher Benoît, et puis j'espère qu'on se reverra peut-être un jour. Voilà.
Mais bientôt, pour fêter vos 97 ans, par exemple.
Ah oui, je voudrais bien, mais je ne peux plus marcher pratiquement. Hein. Alors, c'est difficile.
Bon,
merci encore.
Merci pour votre vitalité, votre talent et votre grand art, cher Robert Massard.
Merci.
Pour combattre le Sarrasin, nous nous mettions en guerre. Un orage nous a soudain arrêtés à Nanterre. Quoi donc contre nos cousins, nos mains s'armeraient-elles? Car s'ils sont des Sarrasins, nous sommes-nous des infidèles?
Nous sommes-nous des Sarrasins, nous sommes des infidèles?
Nous nous sommes bien amusés à l'ombre de nos titres, prenant celui de croisé que pour casser les vitres. À ton manière heureux, coquin, nous en faisons de peur. Nous ne sommes pas Sarrasins, mais nous sommes bien infidèles.
Nous ne sommes pas Sarrasins, nous sommes bien infidèles.
À moi le troisième couplet. Vous êtes ici chevalier, la fleur du gandinisme. Et sans rentrer dans vos foyers, armez-vous d'héroïsme. Vos femmes avec leurs cousins vous attendent chez eux.
Sans avoir des Sarrasins,
vous pourrez voir des infidèles.
Sans avoir des Sarrasins, vous pourrez voir des
infidèles. Et c'était le grand Robert Massard qui nous invitait à combattre les Sarrasins dans le rôle de Charles Martel, un extrait du merveilleux opéra bouffe de Jacques Offenbach, Geneviève de Brabant, sous la direction de Marcel Carivène. Une version qui a été heureusement rééditée voici quelques années dans la collection Ina Mémoire Vive. Ça n'est malheureusement pas le cas de tous les enregistrements de Robert Massard, mais bien sûr on en trouve un certain nombre. Et puis les autres, il faut les chercher pour avoir le bonheur de réécouter ce merveilleux, très grand chanteur qui était ce matin mon invité.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et maintenant sur France Musique, c'est l'heure de la musique légère entre chansons, opérettes et musique de ballet. Je vous propose aujourd'hui quelques histoires de pigeons.
Là, une petite chanson qui s'appelle Le Petit Pigeon. C'est gentil, un petit pigeon. Ça va toujours en haut. J'aurais toujours voulu être pigeon, moi. Un petit pigeon bleu. Bon, ça m'irait bien. Parce qu'on va dans l'azur, toujours dans le bleu, avec du soleil. Enfin voilà, le petit pigeon, petite chanson. Dans un pigeonnier meublé très moderne, avec ascenseur et chauffage central, et comme éclairage une belle lanterne, avec une bougie, c'était l'idéal. Pour l'hiver, il y avait une salamandre. L'été, par la fenêtre, le soleil entrait. Pigeon et pigeonne vivaient d'amour tendre. Elle était jalouse et lui l'adorait. Mais voilà, pigeon n'avait pas de travail. Et pigeonne lui faisait le nez toute la journée. Un jour, elle lui dit, il n'y a pas. Faut que tu ailles au bureau de placement pour qu'on puisse becqueter. Pigeon répondit en ouvrant ses ailes. Je vais chercher une place, je suis un type sérieux. J'ai des bons petits muscles, va, je ne suis pas frêle. Et pour le travail, j'ai pas froid aux yeux. Franchissant l'espace, piquant droit devant lui, fit des tas de visites, tout rempli d'ardeur. Et puis en rentrant, dit, ça va, je suis pris. Ça y est, je suis nommé. Je suis pigeon voyageur. Puis je commence de suite, je vais jusqu'à Bruxelles. Dans une heure à peine, je serai de retour. Pigeon répondit, ta petite femme fidèle, avec impatience t'attendra, m'amour. Une heure se passa, et puis deux, et puis trois, et puis toute la nuit, et puis tout un jour, en se lamentant, pigeon aux abois, réclamait pigeon tout aux alentours. Au bout de six jours, elle n'en pouvait plus, elle devint furieuse et vociféra. Pigeon m'a trompé, pigeon m'a fait cocu. Bien rentrant de Bruxelles, ben qu'est-ce qu'il prendra ? Six semaines se passaient, et pigeon rentra, le poil reluisant, l'air pas épaté. Il dit simplement à pigeon, voilà, comme il faisait beau temps, je suis revenu à pied.
Le petit pigeon, un des 78 tours trop rarement diffusés de l'excellent Beethoven, alias Michel Maurice Lévy, compositeur et fantaisiste. Alors, pourquoi est-ce que je veux vous parler aujourd'hui des pigeons ? Eh bien, tout simplement parce que, en fin d'émission, nous allons entendre le merveilleux ballet d'André Messager, Les Deux Pigeons. Alors, je me suis dit que c'était l'occasion, et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait des pigeons partout dans la musique et dans la chanson. Il y a les pigeons de Saint-Marc dans l'opérette Une Nuit à Venise, il y a les deux pigeons d'Aznavour, il y a le pigeon vol de Brassens, et il y en a encore et encore, et puis il y a Michel Simon dans ce merveilleux film Drôle de drame de Marcel Carné qui chante cette petite chanson.
Dormez, dormez, petit pigeon, dormez, dormez, petit pigeon. Demain, les cloches de Londres, ding-dong, ding-dong, les cloches de Londres vous réveilleront. Dormez, dormez, petit pigeon.
Drôle de drame, un film à voir et à revoir avec ce chanteur improbable mais irrésistible qui était Michel Simon. Alors ça, c'était encore un pigeon tout seul, mais on va venir maintenant aux deux pigeons. Vous savez, les deux pigeons qui s'aimaient d'amour tendre, selon la fable de La Fontaine, et qui sont le sujet de ce ballet de Messager qu'on va entendre dans un instant. On les retrouve aussi, les deux pigeons, dans l'opérette Là-haut de Maurice Yvain, une opérette qui m'est très chère, et dans laquelle figure ce petit couplet, cet air joliment intitulé « Aime-moi, Emma ».
À la manière de La Fontaine, deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, l'un d'eux s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre, soyons entrepreneurs aussi. Aime-moi, Emma, aime-moi, Emma, mon Emma, tu m'as mon Emma. Aime-moi, Emma, aime-moi, Emma, Emma, aime-moi comme je t'aime, moi. Aime-moi, Emma, aime-moi, Emma, mon Emma, tu m'as mon Emma. Aime-moi, Emma, Emma, aime-moi, mon aimé, mon Emma, toi, mon émoi. À la manière de Verlaine, voici des fleurs, des fruits, des branches, mon cœur qui ne bat que pour vous. Prenez-le dans vos deux mains blanches, mais ne l'abîmez pas surtout. Aime-moi, Emma, aime-moi, Emma, mon Emma, tu m'as mon Emma. Aime-moi, Emma, aime-moi, Emma, Emma, aime-moi comme je t'aime, moi. Aime-moi, Emma, aime-moi, Emma, mon Emma, tu m'as mon Emma. Aime-moi, Emma, Emma, aime-moi, mon aimé, mon Emma, vois mon émoi.
Mais c'est fini.
Est-ce que vous n'êtes pas tombé sur la tête ? Décidément, je crois que votre chute vous a dérangé quelque chose là-dedans.
Oh non, mais ma chute en appelle une autre. Emma, viens.
Et en voilà un qui roucoule, un pigeon ramier, juste après cette musique de Maurice Yvain, dont on parlera d'ailleurs à Marseille le 13 novembre. Je serai en direct et en public au Conservatoire de Marseille à l'occasion de la prochaine reprise de Là-haut de Maurice Yvain, une émission publique où je vous attends tous nombreux le 13 novembre. Mais pour terminer cette émission, je vous l'avais annoncé, Les Deux Pigeons, le grand ballet d'André Messager, créé en 1886 à l'Opéra de Paris. On entend l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden sous la direction de Sir Charles Maqueras.
Thank you.
Les deux pigeons d'André Messager par l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden sous la direction de Sir Charles Mackerras. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Cindy Legrumelec, réalisation Olivier Guérin et David Travailleur. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Je serai en compagnie de William Scheller. Mais pour l'instant, vous avez rendez-vous sur France Musique avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.